Radio Okapi.
À la une, interdiction de toute manifestation à Butembo au Nord Kivu qui frise les émeutes et profite aux terroristes. Décision du gouverneur du Nord Kivu annoncée hier à Goma par son porte-parole. C'est à la suite des dernières manifestations qui ont causé mort d'hommes. Et puis cette bonne nouvelle, le bateau MB Lubero de l'ex-Onatra a quitté Kinshasa ce matin pour Mbandaka. À son bord, des dizaines de passagers, des tonnes de marchandises, trafic effectif après la réhabilitation de ce bateau par le comité de gestion de la SCTP. Et puis, ce midi, nous recevons le professeur Émile Ngoy, directeur général de l'Institut supérieur de commerce, ISC. Il précise que les laboratoires, surtout informatiques, sont bel et bien opérationnels sur le site de l'Institut. Il réagit ainsi aux allégations selon lesquelles l'ISC ponctionne aux étudiants des frais de laboratoire sans leur offrir ce service. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouverneur du Nord Kivu interdit toutes les manifestations dans la ville de Butembo qui frisent les émeutes et profitent aux terroristes ADF-MTM. Il appelle surtout les mouvements citoyens à se désolidariser des groupes armés. Cette mesure est contenue dans une communication officielle faite hier à Goma par son porte-parole. Cela fait suite aux dernières manifestations ayant occasionné la mort des éléments des forces de l'ordre à Butembo. Le lieutenant-général Constant Dima instruit les forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne ou tout groupe de personnes qui se rendraient coupables des actes criminels et les déférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur de la loi. On écoute le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, dans ses propos recueillis par la presse officielle du gouvernorat.
Tout en comprenant le ras-le-bol de la population, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu juge intolérable et insupportable la récupération de la situation par les tireurs des ficelles et les attaques armées contre les forces de défense et de sécurité qui, pourtant, accomplissent leur mission constitutionnelle, légale, citoyenne et régalienne par les groupes armés Maï-Maï associés aux manifestants. Il est regrettable de constater que ces groupes Maï-Maï qui avaient pris les armes pour combattre les agresseurs de notre pays et les ennemis de la population servent de supplétifs aux terroristes ADF-MTM face à cette situation très préoccupante et inimaginable. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population et surtout les mouvements citoyens et les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à cesser immédiatement avec ces manifestations.
Le général Sylvain Ekeng a également dressé le bilan des incidents du 12 août à Butembo. Il parle de 5 policiers, dont le commandant second de la LENI tué, l'incendie de 3 jeeps de la police, la disparition de 8 armes AK-47, d'une lance-roquette et d'un pistolet 9 mm emporté par les combattants des groupes armés dissimulés parmi les manifestants. Le général Ekeng parle des actes criminels insupportables et inacceptables. Par ailleurs, la solution à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC ne réside pas dans toutes les stratégies de recours extérieurs avec des forces armées régionales. C'est ce que pense le député national élu de Goma, Jean-Baptiste Kasekwa. Il a dit au cours d'une conférence débat qu'il a animée hier à Goma. Une centaine de personnes de toutes les couches sociales y ont pris part. L'élu de Goma propose au gouvernement congolais quelques pistes de solutions pour mettre fin à cette instabilité qui se perpétue, dit-il. Il demande entre autres au gouvernement de se focaliser sur la réforme de l'armée et des services de sécurité. L'élu de Goma regrette ce qu'il qualifie de sous-traitance de la sécurité intérieure de la RDC par les armées régionales. On écoute le député Jean-Baptiste Kasekwa.
La solution ne va pas venir des forces régionales qui viennent chacun être autorisé par notre propre gouvernement à venir combattre ces rebelles sur notre propre sol. Les Burundais viennent s'occuper de leur Red Tabara. Les Ougandais de leur ADF. Les Sud-Soudanais vont venir s'occuper de leur rébellion dans les Ouélé. Nous devons nous mobiliser pour obliger les gouvernements à se focaliser sur la montée en puissance des FARDC. Les dirigeants congolais ont pris le loisir de sous-traiter la sécurité intérieure de la RDC, compter sur la MONUSCO, sur l'Ouganda, sur le Rwanda, compter sur les forces sous-régionales et délaisser complètement les FARDC. Il faut organiser donc ces tables rondes pour évaluer les opérations militaires et l'échec du TDRC, focaliser l'attention sur la réforme et la montée en puissance des FARDC de la PNC et dans le service de sécurité pour ne plus continuer à tourner les regards. Il est temps que nous puissions reprendre la sécurité de notre pays entre nos propres mains.
Entre-temps, à Beni, les jeunes de la commune de Bungulu ont participé à une rencontre de conscientisation sur le danger sécuritaire qui inquiète la région ces derniers jours. Ces jeunes ont relevé certains maux qui gangrènent la ville de Beni, tout en appelant les jeunes en particulier au rapprochement d'avec les services de sécurité pour arriver à retrouver la paix dans la ville, disent-ils. C'est comme le dit ici Calvin Maliro, président des jeunes de la commune de Bungulu. Il est au micro de Marc Marofimbo.
On a eu à énumérer les problèmes liés au conflit foncier, il y a les problèmes liés au banditisme urbain, les incursions des hommes armés en ville, mais aussi les phénomènes kidnapping. Donc tous ces aspects ont fait l'objet de notre assise. Et après avoir identifié tous ces problèmes, bien évidemment, le dossier qui a été à Butembo ne nous a pas également échappé, parce que Beni et Butembo, ce sont deux villes sœurs et qui communiquent à tout moment. C'est comme ça que à commune de Bungulu, nous avons été avec les jeunes pour prendre des précautions. Savoir identifier les bandits, savoir identifier les mouvements suspects, mais aussi être à mesure de fournir des informations à temps réel à toutes les autorités, selon la responsabilité de chaque service, pour éviter la justice populaire. Nous avons également formulé une recommandation aux autorités de pouvoir aussi être expéditives, aussitôt être informées par rapport à ce qui se passe.
Pendant ce temps, en Ituri, une trentaine de maisons incendiées, plus de 20 personnes disparues. C'est le bilan provisoire d'une nouvelle incursion des rebelles ADF hier à Lumamisa, dans le territoire de Mambasa. C'est la nouvelle société civile de Mambasa qui avance ce bilan que les autorités militaires ne confirment pas. Cette structure citoyenne salue l'intervention de l'armée qui a permis à sauver des vies humaines. Le point avec Clarisse Zindula.
Ces rebelles se sont introduits tôt le matin de samedi dans ce village situé à 35 km au sud-est de Mombasa Centre. Certains habitants ont réussi à atteindre le centre commercial de Mombasa avant que ces assaillants ne barricadent la route. D'autres familles qui ont pris la direction de la forêt n'ont pas pu traverser la rivière Mutufei qui a quitté son lit à cause des pluies abondantes qui tombent dans cette région, rapporte le coordonnateur de la nouvelle société civile locale. John Vuleverio dit que plusieurs enfants se seraient noyés en essayant de gagner l'autre rive. Il ajoute que des soldats des FARDC sont intervenus pour repousser ces rebelles d'ADF, ce qui a permis de limiter les dégâts. Mais ces derniers avaient déjà incendié plusieurs maisons et enlevé plusieurs personnes contactées. L'administrateur du territoire de Mombasa indique qu'il est difficile pour l'instant d'établir un bilan exact de cette incursion. Le colonel Jean-Baptiste Mouyapondi précise que les services de sécurité et l'armée sont à Lumamisa pour évaluer la situation et pour poursuivre la traque contre ces hors-la-loi. Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette bonne nouvelle. Le bateau MB Lubero de la Société commerciale de transport et port ex-Onatra a quitté Kinshasa ce dimanche matin pour Mbandaka avec à son bord des dizaines de passagers et des tonnes de marchandises, essentiellement du ciment et divers articles. C'est après sa réhabilitation par le comité de gestion de la SCTP en conformité avec son programme de reprise du trafic fluvial, a dit le président de l'intersyndicale de l'ex-Onatra, témoin de l'événement au port fluvial de Kinshasa. Kinshasa, Jean-Désiré Kanyama, reportage.
Expression de joie d'abord pour l'équipage.
Yalala François Moninseka, premier capitaine à bord de Lubero. Nous sommes très fiers. Tout c'est d'après une dizaine d'années, on ne voyageait plus. Alors, c'est 4e, 6e jour, nous sommes à Mbandaka.
Son collègue pense déjà à la descente Mbandaka Kinshasa.
Opérateur Malamateta, je suis chargé de la communication. Nous souhaitons transporter même au-delà de 500 tonnes à la descente.
Même sentiment partagé par le passager, en premier les commerçants.
Kalinga, Jean, ça fait 10 ans, on n'a pas vu des choses comme ça. On ne s'y attendait pas. Il y a des marchandises, des habits, il y a du ciment, des divers, un peu de boissons, des jus festins.
Jean Kalinga espère ramener plein de choses de l'Équateur.
Il y a des poissons fumés, il y a du foufou, il y a de l'huile de palme, de maïs. Donc tout ça, on va amener.
Le sous-directeur commercial et marketing au département port transport fluvial parle du prochain programme.
Dissipé Kisangani et Axe Kasai. Parce que nous avons un programme au moins l'effectivité de 6 unités, c'est-à-dire 6 bateaux.
Selon Arma Osase, il est prévu la réhabilitation d'autres bateaux. bateaux.
Nous avons dans le programme effectif 20 bateaux et 40 barges. Il reste maintenant que le ministre des Finances autorise aux banques de mettre à notre disposition notre créance.
Bon voyage.
Merci,
bon voyage.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et puis, le président de la République a dit être informé des activités minières illicites dans la province du Haut-Ouélé, où l'on signale la présence des étrangers exploitant l'or avec des engins lourds. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Il a précisé que ces activités minières s'effectuent entre autres dans les zones d'exploitation artisanale, ce en complicité avec les coopératives minières qui laissent les étrangers y accéder avec les engins lourds. On écoute à cet effet un extrait du compte rendu de la réunion du Conseil des ministres lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Extrait proposé par Alain Rongouchinge.
Le président de la République a rappelé que ces pratiques violent les dispositions du code minier relatif à l'éligibilité à l'exploitation artisanale et celles ayant trait aux aires protégées. Tout en rappelant ses instructions lors de la 29e réunion du Conseil des ministres, en rapport avec la lutte contre la fraude minière, notamment la poursuite de l'identification de périmètres de recherche où s'effectuent les activités minières illicites. Et compte tenu de la recrudescence de ces phénomènes dans la partie est de notre pays, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, en prendre des actions urgentes pour stopper sans délai ces exploitations illicites. L'implication étroite de la ministre de la Justice ainsi que celle des mines a été requise par le président de la République afin d'initier une mission d'enquête sur les activités illicites dans cette partie du territoire national et de les faire rapport assorti des recommandations lors du prochain Conseil des ministres.
Direction la province du Maniema, le centre Kalimu situé à 64 km de Kindu dans le secteur des Beya, territoire de Pangi, éprouve une carence en infirmiers et médecins. Ce centre ne dispose que de 2 infirmiers. La communauté du village Kalimu demande l'intervention urgente des autorités à tous les niveaux pour régler cette situation. C'est un constat de notre reporter Florence Kiza qui était sur place.
Incroyable mais vrai, le centre de santé Kalimu ne dispose que de 2 infirmiers et aucun médecin. En cas d'absence de ces 2 infirmiers, les malades sont abandonnés à leur triste sort. Ceux qui ont un peu de moyens parcourent près de 20 km à la recherche de soins de qualité. Mungilia Gaston Benjamin, relais communautaire de ces centres, fait savoir que cette situation perdure.
Dans le poste de santé Kalimu, il y a seulement 2 infirmiers sans médecin. Si ils ont un problème qui partent à Kindu, nous restons comme ça. Nous n'avons pas des médecins et les infirmiers. Les malades sont obligés de faire 14 km, voire 19 km au centre de santé de référence de Kageli. Cette situation nous met mal à l'aise. Nous demandons l'implication des autorités pour nous aider à cette situation.
À part ces problèmes, les centres de santé Kalimu manquent de matériels médicaux. Construit depuis 2003 par Care International, ce centre dessert la population de 9 villages voisins et a une capacité de 12 lits seulement. Cette information a été confirmée par l'administrateur du territoire de Pangi. Depuis Pangi, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Province de la Tshopo, la dynamique des universitaires du Congo annonce l'arrivée à Kisangani le vendredi 19 août prochain du docteur Denis Mukwege. Annonce faite lors d'un point de presse hier à Kisangani. Selon le professeur Alphonse Maindo, membre de cette structure de la société civile, la visite du prix Nobel de la paix 2018 à Kisangani s'inscrit dans le cadre de la campagne qu'il a initiée depuis 2 ans, campagne au cours de laquelle il parle de son travail en tant que médecin gynécologue et en tant que scientifique. Le professeur Alphonse Maindo explique l'agenda de Denis Mukwege à Kisangani. Il est au micro de Jacques Mukonkole.
Premier point d'ordre, ce sera un hommage aux victimes des différentes guerres que le Congo a connues et en particulier aux victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani. Et c'est pour cela qu'il ira se recueillir sur la tombe des victimes qui sont au cimetière qui se trouve vers l'hôpital général des référents de Kisangani. Le deuxième point d'ordre, c'est à la faculté de médecine qui est sa faculté à lui. Troisième point d'ordre, ce sera donc la grande conférence grand public qui sera faite à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani le vendredi 19. à 9h, tandis que les deux premiers points vont avoir lieu le 18, le jour de son arrivée, et le lendemain, il va avoir à 9h cette conférence sur le viol comme arme de guerre. Et en dernier lieu, mais pas en tout cas les moindres non plus, c'est la visite du site du complexe hospitalier que la Fondation Panzi, dont il est le président du conseil d'administration, va construire ici à Kisangani. Un terrain qui a été acquis sur la route de l'aéroport au point kilométrique, je crois, 12. Parce qu'on a reçu beaucoup de demandes aussi des gens qui voudraient le rencontrer pour parler avec lui. On va essayer d'organiser ça pour qu'il y ait des personnalités de la société civile, que pour des autorités politiques de la province, pour échanger avec eux.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. 4 jours après la présidentielle, les Kenyans attendent de connaître le résultat du scrutin. Mais plus l'attente des résultats se prolonge, plus l'impatience augmente. Cette année, des échauffourées ont éclaté dans le centre national de dépouillement des bulletins de vote et la police anti-émeute a dû intervenir pour remettre de l'ordre. La commission électorale doit collecter les résultats émanant des plus de 46 000 bureaux de vote puis les vérifier. Mais son directeur a lui-même reconnu que le décompte des résultats n'allait pas aussi vite que prévu. 8 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement. C'était dans une attaque armée contre un bus tôt ce matin dans le centre de Jérusalem, ont indiqué la police israélienne et les secouristes. La police israélienne a annoncé avoir arrêté un homme suspecté d'être responsable de l'attaque. Il s'agit d'un autobus en provenance du mur des Lamentations, avec à son bord des fidèles juifs qui venaient de prier. Les passagers de l'autobus ont été attaqués à l'arme automatique, rapporte le correspondant de RFI à Jérusalem.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Émile Ngoy, directeur général de l'Institut supérieur de commerce ISC. Il annonce aux étudiants de son établissement que les laboratoires, surtout informatiques, sont bel et bien opérationnels sur le site de l'Institut. Plus de 50 ordinateurs sont disponibles et une centaine d'autres devraient être ajoutés dans les jours à venir. Le DG de l'ISC estime qu'il est important de vulgariser ces informations pour rassurer les étudiants et contrecarrer des allégations qui laissaient entendre que l'ISC ponctionnait aux étudiants des frais de laboratoire sans leur offrir ce service. Le professeur Émile Ngoy, l'invité de ce journal, s'entretient avec Donna Madimba Mbaya.
Professeur Émile Ngoy, bonjour.
Bonjour.
Depuis quelques jours circulent à l'ISC et dans les milieux universitaires des allégations indiquant que votre université fait payer aux étudiants des frais destinés aux laboratoires alors que des laboratoires n'existent pas selon ces allégations à l'ISC. Des allégations que vous avez décidé aujourd'hui d'éclairer. Quel est cet éclairage, professeur Émile Ngoy?
D'abord, je m'inscris totalement faux par rapport à ces allégations. Vous savez très bien que sur arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Son Excellence Moïse Dozaghi, nous avons été portés à la tête de cet établissement, l'Institut supérieur des commerces. Et aujourd'hui, nous avons été portés il y a à peine 5 mois, même moins de 5 mois. Eh bien, c'est une situation qui a existé avant nous, c'est-à-dire l'année passée, effectivement, il y a eu beaucoup de remous, vous le savez, dans cette institution. Les étudiants avaient payé les frais de laboratoire, mais n'ont jamais participé à des séances de laboratoire. Donc, et ça, c'était l'année précédente. Mais depuis que nous sommes là, nous avons pris des dispositions. Aujourd'hui, je vous parle. Nous avons réhabilité les laboratoires d'informatique et nous avons fait les décomptes du matériel. On a un peu plus de 70 ordinateurs et nous venons de commander auprès de la structure qui est située au ministère de l'Enseignement supérieur, précisément au secrétariat général, 100 d'ordinateurs pour renforcer les parcs informatiques. Nous donnons une priorité au fonctionnement de ces laboratoires, pas seulement pour les étudiants qui font la section informatique, mais également tous ceux qui font la section secrétariat. Il y a déjà un horaire qui est déjà affiché pour ces formations. Notamment, nous avons commencé avec les classes montantes, je vais dire précisément les finalistes. Ils ont 3 séances d'informatique par semaine. Après les finalistes, nous allons remettre en formation les classes de recrutement.
Professeur Émile Ngoy, votre établissement public se présente depuis quelques années comme un établissement universitaire pratiquant le système LMD. Aujourd'hui que vous êtes à la tête de cet établissement, confirmez-vous déjà cette réalité? Si oui, en quoi l'ISC d'aujourd'hui pratique le LMD?
Nous sommes déjà à l'ISC et parmi les établissements pilotes dans la mise en application du système LMD. Mais bien entendu, vous savez que ce système LMD, l'application est progressive, c'est-à-dire on a démarré avec, je dirais, le premier cycle, n'est-ce pas, le premier cycle qu'on appelle aujourd'hui L1, L2, L3. Donc nous commençons progressivement. Les enseignements se font sous mode LMD et l'ISC déjà c'était une formation assez professionnalisée et avec l'avènement du LMD, il y a une professionnalisation renforcée et nous pensons aussi que cette professionnalisation renforcée s'inscrit également dans la ligne de ce qu'on trouve aujourd'hui dans la plupart des pays qui réussissent, la formation et la professionnalisation et donc l'employabilité d'élèves qui se soucient aussi de l'employabilité d'élèves produits de la formation. J'ai vu l'expérience à l'Allemagne, la Suisse sont des modèles aujourd'hui qui mettent en place des systèmes d'apprentissage. Et nous sommes enclins de révolutionner également en nous basant sur les LMD pour que nous puissions introduire également une dose d'apprentissage pour permettre à ce que déjà les enfants qui sont sur les bancs de l'école puissent être très souvent en stage de formation de manière à ce que à l'obtention du diplôme, ils puissent avoir déjà une certaine expérience pratique.
Vous pensez que les 50, les 60, les 80%, voire même les 100% de la pratique de l'arrimage au système LMD à l'ISC pourrait être atteint dans à peu près combien de temps? Qu'est-ce qui manque encore et qui pourrait être totalement pris en compte dans les jours à venir?
Bon, il est évident qu'il y a une logistique. Il faut une logistique. Cette logistique-là ne se présente pas seulement en termes de matériel, mais en termes humains également, parce que nous avons besoin des praticiens, parce que les professionnalisations des enseignements postulent au-delà des professeurs, mais également les praticiens, les dirigeants. Nous sommes une école de management, une école de gestion, n'est-ce pas? Et donc, nous ouvrons également l'ISC au niveau des enseignements, aux praticiens, à ceux qui gèrent des entreprises, des grands groupes. Nous avons besoin de tout cela. Il est évident aussi que l'ISC vise plus haut d'être une école sous-régionale. L'ambition n'est pas démesurée, mais je pense qu'elle est à la portée. Et cette vision-là, nous sommes en train d'y travailler. Nous travaillons sur les infrastructures, parce qu'être une grande école de commerce signifie aussi qu'il faut avoir des infrastructures.
Professeur Émile Ngoy, je vous remercie.
Le directeur général de l'Institut supérieur des commerces ISC s'entretenait avec Donna Madimbambaya. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Alain Rungmouchinj, à la mise en nom Dieudonné Nyangassa et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.